Asseyez-vous, comme ça, ça fera une personne de plus.
Bonjour à tous. On a eu peur parce qu'il y a 2 minutes, il n'y avait personne et maintenant, on va manquer de chaises. C'est génial. Alors, nous sommes dans quelques mètres carrés consacrés à Kitanis et à son œuvre, on va dire ça comme ça, les ouvrages que nous engageons, un thème particulier. Ce que nous avons souhaité aborder dans cette agora était la question de est-ce qu'on est capable aujourd'hui de produire pour les habitants, ça on le sait, les futurs locataires ou accédants, mais avec eux, ça nous semble moins évident dans les pratiques des maîtres d'ouvrage, y compris publics et privés. Et donc la question qui nous intéresse aujourd'hui, je crois qu'on a une heure, Maxi, hein, bon, donc c'est bien, c'est d'essayer d'aborder cette question-là au travers de 2 projets qu'on mène avec une agence, qu'on peut encore qualifier de jeune. Ouais, il ne bouge pas, donc c'est bon, ouais. EO, toute architecture, et toute l'agence est là, pour l'instant.
Globalement, oui. Hein,
donc voilà, donc on a deux avec eux. On avait eu une rencontre épisodique sur plusieurs années avant que on ne fasse affaire et qu'on leur confie un premier projet qu'on va regarder là. Et puis ensuite, étant donné la qualité du travail qu'il y a eu entre les équipes d'Aquitanis et eux, on s'est dit qu'on pouvait les mettre en compétition pour un deuxième projet un peu plus compliqué. Et on a démarré, c'est le deuxième projet qu'on vous présentera, on a démarré donc depuis juste cet été un deuxième projet. Donc deux choses sur cette question de coproduire l'intensité d'usage, c'est-à-dire que notre propos est de se dire on a dans notre société aujourd'hui une envie, et dans une ville, une envie que les gens se rencontrent, les gens dialoguent, échangent. Alors ça semble aller de soi, mais ça va bien surtout par tranche d'âge, par catégorie sociale. Et on sait très bien qu'une métropole ou une ville comme Bordeaux, comme toutes les villes en France, ont plutôt une tendance naturelle à ségréguer, séparer. Et alors qu'il y a un désir très fort des élus, des habitants, de rassembler, de permettre la rencontre, de permettre l'échange, et y compris aux deux bouts des âges de la vie. Alors le premier projet, on l'a pensé et on l'a construit, puisqu'il va être livré dans quelques semaines, autour de cette idée de la rencontre entre générations. Car vous savez que nous, en tant que maître d'ouvrage, on produit du logement spécialisé pour les jeunes. On a des centaines et des centaines de logements étudiants. On a des foyers pour jeunes travailleurs. Et puis, à l'autre bout de la vie, on produit aussi quelques opérations et on a quelques centaines de logements pour personnes très âgées dans ce qu'on appelle les établissements spécialisés pour personnes âgées et certaines avec un handicap. Et voilà. Donc, on sait faire et tout le monde sait produire comme ça une offre très spécialisée pour les différents âges de la vie. Alors on s'est dit qu'on pouvait attraper les deux âges de la vie et les rassembler dans un lieu. Et le pari qu'on fait, c'est que le lieu va réellement produire une intensité de rencontres intergénérationnelles. Ça, c'est le point de départ. Alors le plus simple à faire, c'était de fabriquer la dimension spatiale du projet. Et donc nos architectes vont nous montrer, nous expliquer un peu comment ils ont attrapé ce concept, puisqu'on l'a appelé résidence solidaire. Donc c'était un concept, un lieu, un bâtiment dont les contours, la forme, la spatialité, la matérialité devaient favoriser la rencontre, les échanges à des familles à qui on va attribuer plutôt des petits logements et où on aura des personnes très âgées et puis des jeunes ménages avec un premier enfant. Et sur cette première résidence qu'on a appelée Auréa, on a dit que le partage allait se faire autour de jardins, et donc jardiner, cultiver, s'occuper à mettre les mains dans la terre et les 2 pieds dans la glèbe. Et on se disait, en dialoguant entre nous en interne et puis avec d'autres personnes en externe, que c'était quand même la façon peut-être la plus facile aujourd'hui en ville d'attraper des gens pour qu'ils se rendent compte que de les amener à jardiner, tout le monde a envie de ça, semble-t-il, aujourd'hui. Donc on est parti sur cette idée. et on va vérifier maintenant si ça fonctionne. Alors on va regarder juste, je garde la parole 2 secondes juste pour les 2 premières images. Voilà, c'est celle-là, peut-être la première. Vous verrez, le bâtiment est sur plusieurs niveaux et on a essayé de chercher 3 niveaux de jardin, 3 niveaux de lieux de rencontre, 3 niveaux d'intensité de rencontre intergénérationnelle autour du coup de bêche. Et donc on a en rez-de-chaussée du bâtiment un premier grand espace sur la gauche. On peut regarder le plan de match juste avant. C'est une résidence qui est en plein cœur du Bouscat. On est de façon très traditionnelle dans un esprit de village, c'est-à-dire que sur la place, il y a l'église, la mairie, et puis du logement, et demain une médiathèque faite par King Kong. Et donc là, on avait ça, et on est vraiment au cœur du bourg. Il n'y a pas plus grande centralité que ça, et plus, entre guillemets, cliché du centre d'un village où il y a... Alors, il n'y a plus de curé, je crois, dans l'église, mais il y a un maire, un curé, et puis des habitants autour. Et on a dit, ça, en cœur de bourg, c'est une résidence qui ne sera pas fermée. Et donc, le premier jardin de rez-de-chaussée, il doit être ouvert à l'ensemble des habitants du Bouscat, de ceux qui habitent en centralité du Bouscat. Ils doivent venir bêcher chez nous. Et donc, pas de clôture, pas de résidentialisation. On crée une venelle d'accès. Et puis, il y a une perméabilité pour rentrer directement au cœur de la résidence, même si on n'est pas résident. Il n'y a pas de badge, il n'y a rien, tout est ouvert. Et le premier jardin commun, ouvert au public, il est là en rez-de-chaussée du bâtiment. Ensuite, on va passer à l'étage, et là, on va être dans l'environnement et le monde qui est réservé à nos résidents, avec plusieurs dispositifs le long de la coursive circulante sur la droite qui donne sur la place. Il y a nos archis nous ont dessiné des grandes jardinières qui sont face à l'entrée du logement ou devant la fenêtre de la cuisine. Et on se dit, là, c'est le petit jardin de curé, les herbes de tous les jours, chacun pour soi. Je viens cultiver mes aromates devant mon entrée d'appartement. Et puis ensuite, tout le monde du premier et deuxième étage va venir sur un jardin babylonien suspendu au premier niveau. Et où là, tout le monde va pouvoir venir joyeusement bêcher, butiner, jardiner ensemble. Et puis, il y a un endroit assez étonnant au sud de l'entrée du parking souterrain, qui est un bassin avec des nymphéas. Et puis, on attend l'aigrette et on attend le héron cendré pour plus tard. Puisque l'idée, en fait, est bien aussi de penser en logique d'écosystème, de biodiversité. Alors, vous avez vu que la biodiversité, c'est déjà 2 âges opposés de la vie. Bon, on espère qu'il y aura aussi d'autres espèces, et notamment animales, qui vont revenir là. On va mettre des abeilles, on va mettre plein de choses, des batraciens dans notre petit étang, de façon à ce qu'il y ait une vraie biodiversité aussi à cet endroit-là. Voilà le dispositif spatial. Imaginez, ça va être planté tout ça dans les jours qui viennent. Et à partir de là, tout est dit, il n'y a plus qu'à faire. Hein, et donc, il fallait que les archis construisent quelque chose autour de ce concept. Enfin, c'est eux qui ont construit les jardins aussi. Hein, mais voilà, on partait de la dimension verte. Et puis après, il fallait déployer tout un dispositif spatial qui est un lieu à habiter. Hein. Donc là, je leur laisse la parole, même s'ils m'avaient dit qu'ils n'avaient pas envie de parler aujourd'hui. On va
vérifier si... Bah, disons qu'on avait fait un très joli conducteur qui maintenant, évidemment, est complètement... Voilà, tout à fait. Donc, pour reprendre cette idée de résidence solidaire... ce qui était intéressant, c'est que déjà la commande passée par Aquitanie, c'était un concours. C'est-à-dire que la question était fermée. On nous a dit, voilà, il faut faire une résidence solidaire. Et à la fois, nous, on avait un projet à rendre. Et puis, une fois que le projet était rendu, ben, la bouteille était jetée à la mer et on ne savait pas trop ce que ça pouvait donner, cette affaire-là. Dans l'idée du solidaire, il y avait surtout l'idée que ça ne se décrète pas. C'est-à-dire qu'on considère que... on ne fait pas une résidence solidaire par décret où les gens, miraculeusement, seraient tous fraternels. Et donc, on a surtout cherché à trouver un alibi, c'est-à-dire à trouver un fonds commun qui pouvait permettre à tout le monde de se retrouver autour d'une problématique. Donc, c'était cette histoire de jardinage. Après, c'est un projet où, finalement, qui reste du logement social. Donc, il fallait quand même qu'on trouve des marges. Ce qui nous a beaucoup aidé aussi, c'est la parcelle. La parcelle est mal foutue, elle est triangulaire. On a un programme un peu compliqué parce qu'au rez-de-chaussée, on a une grande part qui est prise par des commerces, on a une rampe d'accès à un parking souterrain et on a une maison. Et tout cet ensemble-là à spatialiser, si je puis dire, allait forcément générer une complexité. Et cette complexité nous intéressait parce qu'elle permettait d'avoir des opportunités spatiales. C'est pour ça qu'à l'étage, se pose le problème de l'angle. C'est-à-dire que quand on a une parcelle comme ça, bah, évidemment, comment on traite l'angle ? Là, on s'est souvenu de Jacques Ondelat, qui était notre prof à l'école, et qui avait pour habitude de dire, quand il y a un problème, bah, il suffit d'éliminer le problème pour qu'il disparaisse. C'est plein de bon sens. Et donc, on a supprimé l'angle et ça a donné une terrasse. De la même manière, au niveau des coursives, on a des grandes coursives qui font 2,50 m de large. Ces 2,50 m, c'est uniquement au départ un problème bêtement technique, un choix technique et économique, qui est de dire bah, si la structure plombe du toit jusqu'au parking, bah, ça sera plus économique. Et du coup, ça va nous payer des grandes coursives. Et dans ces grandes coursives, on se dit bah, les gens, évidemment, vont se croiser, il va se passer des choses. Et en reprenant toutes les théories de sociologie de l'espace, plus on se croise, plus on se côtoie, plus on se parle, et a priori, mieux ça se passe. Donc, dans chacun des petits dispositifs qu'on a trouvés, on a mis ce fond, justement, de jardinage. Donc, comme l'a dit Bernard Blanc, la façade est treillée, c'est-à-dire il y a un grand treillage qui protège la coursive des regards extérieurs et inversement, qui crée un filtre. Et donc, là, on a planté des hippomées et du jasmin. On espère bien qu'effectivement dans ces jardinières il va se passer autre chose et qu'il va y avoir du persil et plein d'autres herbes. Voilà, donc là ça c'est des photos, le projet est encore en chantier, pas pour longtemps normalement. Voilà, donc là on voit les coursives qui donnent sur le jardin de l'église. Donc il y avait aussi l'idée évidemment qu'il y ait un dialogue entre les deux. Donc c'est un triage très simple, c'est fait avec du fil de fer, ça coûte 3 francs 6 sous. Enfin. Si, je confirme, c'est 3 francs 6 sous. Voilà, et donc sur ces coursives, l'idée était aussi de créer un intérieur, c'est pour ça que c'est le seul endroit du bâtiment dans lequel on a un matériau différent, puisqu'elles sont, bardées de contreplaqués. C'était l'idée qu'on soit vraiment comme dans un meuble, dans une intériorité, on va dire. Et à la fois ce contreplaqué nous intéressait bien parce qu'il est aussi très économique et surtout comme il est complètement à l'abri, c'est un matériau qui est tout à fait adapté à sa situation. Peut-être passer en arrière, oui, pourquoi pas. Voilà, peut-être expliquer un peu le fonctionnement grosso modo. Donc on revient au rez-de-chaussée. Voilà, donc l'accès de la résidence, ça c'était un préalable aussi du concours, devait se faire au cœur d'îlot, c'est-à-dire à l'angle du L. Et donc, on a créé une venelle d'accès au sud qui permet effectivement d'avoir une perméabilité à l'espace public qui est complète, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun obstacle entre cette venelle, ce jardin commun, et ça, c'est quelque chose aussi que nous a demandé Aquitanis. On a rajouté un accès en plus à la venelle qui est à l'ouest, qui borde la parcelle. Donc, l'accès se fait au milieu, et à partir de là, les circulations verticales. Mais là aussi, à un moment donné, s'est posé la question d'implantation de différents équipements, comme par exemple un truc aussi bête que des boîtes aux lettres. Nous, on s'est dit, si c'est une résidence intergénérationnelle, forcément, c'est que les personnes âgées, boîtes aux lettres, c'est quelque chose d'important. On y va, on achète beaucoup par correspondance. On a des grands-mères qui pratiquent beaucoup ce genre d'activité. Et donc, on a implanté justement la boîte aux lettres volontairement entre l'escalier et l'ascenseur. Je ne sais pas si tu peux me montrer. Voilà, au centre. Ce qui veut dire que ça va être un lieu de passage. Là, on a un banc qui est à côté. On imagine bien que, ben voilà, on va chercher son courrier, qu'éventuellement, il peut se passer quelque chose en rejoignant ça, l'idée de Le Corbusier, toute proportion gardée, sur la cité de Marseille avec cette importance des boîtes aux lettres. Et d'ailleurs, ce qui est drôle pour l'anecdote, c'est que la Poste, les services de la Poste, refusent de nous implanter les boîtes aux lettres à cet endroit-là, arguant le fait que c'est trop loin de l'espace public. Et justement, là où la situation est drôle, c'est que nous, on dit, bah non, l'espace public, justement, il prend tout le rez-de-chaussée, donc il n'y a pas de dimension à partir duquel on ne serait plus dans l'espace public, on est dans l'espace public. C'est ce qui a permis de bloquer la situation. Voilà, donc ensuite, cette histoire d'escalier, habituellement, dans les projets, l'escalier, bon, bah, c'est un truc qui est entre quatre murs, qui est sombre et qui ne sert pas à grand-chose, si ce n'est... En cas d'urgence, nous, on s'est dit que finalement, dans le cas d'une résidence comme ça, ça pouvait être intéressant que l'escalier soit une véritable alternative à l'ascenseur et qu'il propose un vrai parcours. Donc, cet escalier, il navigue sur tous les étages et surtout, il propose des points de vue qu'on peut ne pas avoir dans son logement. Il dessert comme ça ce réseau de coursives qui, à gauche, donc, dessert une tour de T4 et à droite, la barre des T2, T3, en sachant que la contrainte principale était qu'évidemment, tous les logements devaient être au moins traversants. Donc, ce qui a généré aussi cette circulation. Hop, voilà. Qui a généré donc cette circulation de coursives. Sur ces coursives, donc, il y a ce système de triage, mais il y a aussi, on a installé des placards à vélo, parce que quand on a un vélo, il faut pouvoir le mettre, qu'il y a un garage à vélo en bas, mais que quand on a un vélo de valeur, c'est important de pouvoir le ranger dans un endroit fermé. Donc on a mis des petits placards à vélo. On a tout un tas d'équipements comme ça qu'on a dispersés dans la résidence et qui sont justement de nature à intensifier l'usage. C'est-à-dire qu'on se dit, voilà, par exemple, sur le cas du vélo, si on a un placard à vélo, on ne le mettra pas sur le balcon, donc on aura plus de place sur le balcon. Sur le balcon, il y a un autre placard qui sert de séchoir parce que quand on est sur du T2, T3, on reste quand même dans des dimensions d'appartements qui sont ce qu'elles sont. On se dit que si on a un séchoir dans le placard, ça permet, c'est toujours ça d'éviter dans la cuisine ou dans la salle de bain.
Allez, les images.
On peut peut-être passer aux photos, oui.
Oui, on voit parce qu'il faut qu'on avance.
Alors, toutes ces stratégies, que ce soit la terrasse potagère, donc la terrasse potagère, c'est juste une terrasse, tout ce qu'il y a de normal, dans lequel on a implanté des big bags, donc des sacs à gravats qui font 1 mètre cube, qui coûtent vraiment pas cher. Ça, c'est un système, mais rien ne coûte cher dans ce projet. C'est un système donc, qu'on a trouvé, qui a été développé par un ingénieur agronome asiatique et qui est utilisé dans les villes justement où il n'y a pas beaucoup de terrain et qui permet, par un système de drainage très simple et très astucieux, de pouvoir planter sur tous les côtés du sac. Donc on a les 5 côtés du sac qui sont plantés, ce qui donne une surface assez considérable. Donc chaque habitant a son sac, a son carré de jardin, si je puis dire, et il peut planter sur quasiment toute la surface. Et l'intérêt de ces procédés, c'est que c'est des procédés réversibles. C'est-à-dire que si demain, le jardinage est passé de mode, ça peut arriver, ou que finalement ça ne fonctionne pas pour des raisons extérieures, il suffit d'enlever les big bags et ça redevient une terrasse normale sur laquelle on peut faire du basket ou Dieu sait quoi. Voilà, là, donc, on est sur la terrasse potagère avec, ça, c'est un prototype de placard qui va servir pour l'équipement de la terrasse potagère. L'escalier, donc, qui parcourt comme ça tous les niveaux. Voilà, la coursive, donc là, qui est en cours d'installation, avec, on voit les jardinières qui sont à gauche, le treillage. Voilà, donc là, on a la rampe, on a ce bassin. En fait, dessous, on a la rampe d'accès au parking souterrain. Et on s'est dit que couvrir une rampe juste pour pas qu'il y ait de bruit, c'était un peu luxueux. Donc on s'est dit, ça serait bien de lui trouver une autre fonction. Comme on était toujours dans ce style de jardinage, je me dis, on va faire un jardin, et un jardin aquatique, tant qu'à faire. Donc en fait, ça, c'est juste une étanchéité toute simple, sur laquelle, donc qui ne coûte pas plus cher qu'une étanchéité normale, sur laquelle on bouche les descentes, et dans laquelle on va mettre des nymphéas en pot, avec une petite pompe de circulation pour éviter qu'il y ait trop de moustiques, même si il peut y en avoir. Et là aussi, c'est un système tout à fait réversible. C'est-à-dire que le jour où ça nous embête, parce que ça peut quand même aussi mal se passer, il suffit de déboucher la baignoire, on vide le bassin et c'est fini, ça redevient une terrasse normale.
Alors, on va passer au deuxième projet, mais avant, voilà la présentation du dispositif spatial. Là-dessus, il y a tout un travail qui est fait par une autre équipe à Aquitanie sur l'ingénierie sociale qui accompagne le projet. Ça a été évoqué par nos archives. C'est qu'on met en place un dispositif, il peut très bien ne pas fonctionner, il est réversible, ce n'est pas important. Les gens ont leur logement et s'ils ne veulent pas jardiner, si on se rend compte que ça ne marchait pas, ce n'est pas grave. Ils sont chez eux, ils font comme ils veulent. Et donc on va juste lancer la mécanique. Pendant quelques mois, on va accompagner par une ingénierie assez sophistiquée l'envie de se rencontrer, de jardiner et de vivre un peu différemment, y compris en s'ouvrant à l'ensemble de la commune sur ce lieu très, très particulier. Mais si au bout d'un moment, ça ne prend pas, ce n'est pas grave. Chacun retourne devant sa télé ou ailleurs, fait ce qu'il veut. Ce n'est pas le problème d'Aquitanis. Nous, on n'est pas là pour tenir à bout de bras une obligation de partage, de rencontre, de dons et de contre-dons entre des résidents dans un lieu qui nous appartient. Et donc l'ingénierie est faite avec des associations spécialisées, faite en relation avec la commune du Bouscat, doit nous permettre juste d'amorcer la rencontre, d'amorcer. Et donc, il y a des jardiniers qui vont venir. Il y a un local, on ne l'a pas évoqué, mais il y a un local partagé avec une cuisine, salle à manger et tout, pour qu'ils puissent faire des choses à l'abri aussi, des semis, de la cuisine, des conserves, comme ils veulent. On amorce ça. Donc, les 6-8 premiers mois, il y a de l'animation, il y a des jardiniers et des jardinières qui viennent les aider, qui viennent leur apprendre. On échange avec le reste de la planète, avec une autre association qui les branche sur des choses assez marrantes. Ça fourmille et ça prend ou ça prend pas. Si ça prend, après, ils sont autonomes, ils continuent tout seuls, ils se créent leur propre association, ils vivent leur vie. Ça, c'est la première chose extrêmement importante du dispositif. Et le dernier élément de notre dispositif, c'est de, puisqu'on fait le pari qu'on peut offrir sur le marché de l'habitat, du logement, un dispositif qui fabrique de la rencontre, encore faut-il qu'on apporte la preuve qu'il y ait vraiment une intensité dans la rencontre intergénérationnelle. Et donc, on a une chargée de mission dans notre dispositif de responsabilité sociétale et environnementale qui va mettre en place les dispositifs qui vont nous permettre de rendre compte qu'il y a une véritable intensité de la rencontre intergénérationnelle dans ce lieu. Et donc, on a travaillé à fabriquer un baromètre de l'intensité de la rencontre intergénérationnelle. Donc, c'est une première. Si ça vous intéresse, vous reviendrez nous voir au Bouscat, la résidence, et vous verrez sur le mur de la salle commune un véritable baromètre thermomètre qui dira qu'en cet endroit-là, l'intensité est réelle. Elle est prouvée quasi scientifiquement par un baromètre et avec un mercure qui monte ou qui descend. L'idée, c'est de dire, je peux démontrer qu'il y a de l'intensité ou pas, comme on vient de vous exposer une matérialité, d'une spatialité à habiter. Eh bien, on doit pouvoir aussi montrer qu'il y a, à l'intérieur de ça, du gazeux, de l'échange, de l'humain, de l'impalpable, de l'indicible, et que ça, on peut quand même en rendre compte. Donc, on pourra montrer et démontrer qu'en ce lieu particulier, grâce à ce dispositif, il se passe autre chose, d'une qualité de l'air et de la rencontre, de l'échange un peu différente. Ça, c'est notre challenge, c'est notre désir, et je pense qu'on va arriver à montrer ça. Alors, quand on a commencé comme ça, on s'est dit, ben, dans le fond, on a fait le boulot comme on fait d'habitude, on produit du logement, du mètre carré, on l'amplifie un peu par un dispositif sur un thème précis, là, le jardinage, et puis il roule, c'est du logement, quoi. Fait, livré, ils viennent s'installer, ils apportent leurs meubles. Ils fabriquent dans un deuxième temps une autre dimension à la résidence, mais dans un deuxième temps. Alors, on s'est dit, mais dans le fond, c'est du locatif. C'est une résidence que pour des locataires. Dans le fond, on s'est dit, mais on peut peut-être pousser le bouchon un peu plus loin et ramener les futurs locataires tout de suite dans le projet. Alors, on a refait un deuxième concours et c'est les mêmes qui ont gagné le deuxième concours, parce qu'ils étaient pas mal aguerris avec ça, et ils ont su répondre à la question, est-ce qu'on peut concevoir un ensemble résidentiel d'une quarantaine de logements pour des locataires qui concevraient avec nous leur logement? Et donc c'est notre deuxième, projet qu'on a appelé Locus Solus, parce que ça veut dire que c'est, en latin, c'est le lieu unique. C'est-à-dire qu'il va se passer quelque chose d'assez particulier sur une emprise foncière qui nous appartient. On est au Grand Parc et on a une très belle emprise foncière sans usage pour demain, trop plein de réalité d'usage pour aujourd'hui, c'est un parking. Mais on se dit, les générations futures seront plus raisonnables que celles d'aujourd'hui, elles n'auront plus de voiture, donc cet espace-là n'aura plus d'usage à moyen terme. Dans 2-3 générations, on pense. Et donc, on va confisquer ça tout de suite et on va enlever les voitures et on va en faire un nouveau terrain de jeu pour une nouvelle résidence dont on a fait le pari qu'on pouvait faire le projet pour des locataires. On n'est pas sur de l'accession, coopération, participation de futurs accédants à la réalisation de leur projet. Là, on va aller chercher des locataires. Et on va leur dire, est-ce que vous voulez construire avec nous votre prochain logement dans lequel vous serez toujours locataire? Donc ça, c'est une donnée un peu nouvelle. Et donc, on a l'endroit, on est au milieu de bars et on est allé chercher, les gestionnaires sont allés chercher, parmi la population habitante d'Aquitanis du Grand Parc, des gens qui auraient envie, d'ici un an et demi à peu près, ou 2 ans, de se retrouver dans un autre logement, mais toujours au Grand Parc. Donc on a assuré nos arrières, ils sont toujours locataires avec nous, ce qui fait que si on prenait plus de temps que prévu, ben, ce n'est pas grave, hein, ils sont chez eux déjà, hein, ils sont déjà dans le quartier. Donc voilà le propos de ça, donc on vient densifier un site et on va lui apporter une qualité totalement inattendue. Et là on ne part plus comme on l'a présenté dans le projet précédent avec une spatialité, un bâtiment, on part avec un immense vide qui est un plein d'avoir envie de faire ensemble son futur lieu de vie. Et donc on part là directement avec le gazeux, ou le soft par rapport au hard, hein, on part avec ce qui est vraiment le rêve, l'envie, le difficile à exprimer. D'ailleurs, ça a été le cas à la première rencontre avec les habitants. Et difficile pour eux d'exprimer le fait qu'ils vont pouvoir travailler avec une maîtrise d'œuvre, avec notre monteur d'opération, notre gestionnaire, inventer de toutes pièces leur lieu à habiter. Hein. Et juste, après je relaisse la main à nos architectes qui vont être à la manœuvre, il y a une autre image qui dit quelque chose de la qualité. Voilà, la qualité, juste, ouais, celle-là, la qualité du lieu. Vous voyez que c'est terriblement contemporain. C'est d'abord plein de bagnoles. Et donc ça dit qu'on est vraiment dans un site moderne, contemporain, actuel. Et puis on a le moderne des années 55-75, c'est le Grand Parc, hein, c'est la période de la construction de ce grand ensemble de 4000 logements. Et c'est des bars à 16 étages, et puis des tours, pareil. Et vous voyez que là, on est dans un espace quand même où on se dit, mince, on est au pied de choses très imposantes, et on va faire un petit îlot de 40 logements. Oula, ça, c'est pas facile. Mais l'emprise foncière est très, très grande. Et puis surtout, il y a en face, et ce qu'ont très bien montré les archis en montant dans les étages pour prendre cette photo, on est face à un espace boisé qui est dans une propriété privée juste de l'autre côté, qui a une immense qualité, et que si je me mets à un troisième niveau, quatrième niveau, j'ai le nez dans les arbres, quoi. Donc on s'est dit, si je tourne le dos à la barre, hein, ce que je vois, c'est quand même un ensemble boisé de très grande qualité. Donc le site vaut le coup. Si je suis capable de faire projet à cet endroit-là, j'ai une contrainte, la densité, la hauteur de l'habité existant, mais j'ai quelque chose d'extrêmement qualitatif qu'on exploite peu, parce que vous voyez bien que les voitures qui regardent les arbres là, elles n'ont pas d'état en verre. Hein. Donc laisser des bagnoles regarder un endroit aussi beau, c'était un peu dommage. On s'est dit, tiens, on va mettre plutôt des habitants, des êtres humains pour profiter de cet espace-là. Et on l'a mis en valeur, cet espace qu'on regardait peu, hein, même nos gestionnaires sont tous les jours sur le site. On le prenait pas, il n'est pas chez nous en plus, on le prenait peu en compte. Et c'est en commençant à faire projet là qu'on s'est dit, mais dans le fond, ouais, le site est assez exceptionnel. Bon. Voilà comment on est parti. Alors donc, on leur a passé une commande, on a dit, on ne sait pas ce qu'on va faire, mais on va y aller tous ensemble. Et donc la démarche là aussi, comme sur la résidence précédente, hein, on a calé le dispositif chemin faisant. On ne sait pas trop où on va. On a envie d'y aller, on pose quelques éléments de point de départ, et puis on se laisse emporter. Et on verra bien comment ça sort. Alors, on va se dire, ils vont raconter ça aussi, on a posé quand même quelques principes, quelques règles, quelques garde-fous qui nous assurent quand même que même si on n'arrive pas à faire le projet tel qu'on l'a imaginé, on livrera dans un an et demi 40 logements, quoi qu'il advienne. Et donc, même si les habitants volontaires nous ont lâchés en cours de route, n'ont pas cru à notre utopie. Au final, de toute façon, il y aura 40 logements attribués à 40 familles. Donc il n'y a pas de risque au bout. Hein. Et donc on peut perdre notre âme chemin faisant, ce n'est pas grave. Au bout, on offrira le métier de maître d'ouvrage, quoi qu'il advienne. Hein. Et donc ce quoi qu'il advienne nous permet de partir avec énormément d'assurance dans le vide. Parce que ce n'est pas simple hein, de partir quand même à faire du locatif participatif. Ils ne l'ont pas fait, nous non plus, les gestionnaires, les monteurs d'op, personne. Hein. Et donc, on y va, on saute, et puis on voit. Voilà, et on déroule au fur et à mesure, et on invente. Alors, qu'est-ce qu'on commence à inventer, là?
Ils ne voulaient pas en parler du projet, mais ils vont nous dire des choses. Que
non, c'est vraiment un projet... non, c'est vrai qu'on ne voulait pas en parler, mais pour nous, c'est vraiment un projet de maîtrise d'ouvrage. C'est ça qui est assez drôle, c'est-à-dire que c'est vraiment la question qui est posée qui est à la limite plus intéressante, je pense, que le projet qui en sortira. C'est-à-dire faire du participatif en locatif, c'est déjà une démarche incroyablement atypique. Et le faire à cet endroit-là, c'est-à-dire en gros sur un parking des années 60, c'est aussi assez étonnant. Et ce site est quand même assez étonnant dans le sens où, comme dans beaucoup d'endroits du Grand Parc, c'est des espaces qui n'ont pas été stratifiés, c'est-à-dire qui sont restés tels qu'ils sont, avec des usages très, très spécifiques, donc des garagistes volants, des voitures qui sont là, on se demande un peu. C'est assez étonnant. Et un espace qui a réellement des qualités, qualités au sens des caractéristiques, très délimité. Il a une espèce de vacuité comme ça qui est assez étonnante. Et il a aussi, donc, ce dont parlait Bernard Blanc, cette vue dégagée sur le domaine de Cluny et sur cet espace boisé. Donc nous, l'idée a été au départ de partir du site et de se dire, ce site, comment on peut s'en emparer, comment on peut s'implanter là. Et on a dit, ben, finalement, ce qui existe là a une qualité, enfin on a même plusieurs, donc on va le garder. On va le garder tel qu'il est et on va stratifier, on va se poser dessus. Donc on a posé une table, un grand socle qui fait 2000 mètres carrés, voilà, qui laisse le parking intact, à peu près intact, on va dire, qui le touche le moins possible, et qui génère dessus une surface très importante qui est accessible à tous, une surface qui est publique. Il y a l'idée aussi dans ce site de raccorder justement d'autres espaces publics du Grand Parc et d'avoir comme ça un parcours continu entre la limite sud du Grand Parc et puis le reste du quartier. Sur cette grande table, on est à 3,50 m du sol, donc on commence déjà à être au niveau du domaine du Cluny. C'est-à-dire qu'on commence déjà à avoir des échappées intéressantes. Et donc, sur sa limite nord-est, on a mis ce qu'on appelait une structure d'accueil. C'est-à-dire, en gros, l'idée d'une structure poteau-poutre dans laquelle vont prendre place les logements. On ne sait pas encore comment. C'est-à-dire qu'on est en train de définir un cahier de typologie, on a fait tout un catalogue, et en concertation avec les habitants, eh ben on va voir quelle typologie leur plaît, quelle typologie colle le mieux à leurs désirs, et comment on peut l'adapter. Donc il y a un certain nombre de linéaments, de gaines, etc., qui resteront fixes, mais après, dans l'idée, c'est d'arriver à personnaliser au maximum les logements pour que cet intime, justement, dont on parle, puisse se réaliser dans les meilleures conditions. Ces logements, ils donnent sur des coursives. Donc là, on est vraiment sur le même principe qu'Orea. Sauf que là, on s'est dit, ça c'est une nouveauté, que la coursive, justement, peut-être aussi qu'elle pouvait avoir un statut mis en débat au niveau des habitants. C'est-à-dire que est-ce que la coursive doit être complètement publique? Est-ce qu'il y a des parties où, finalement, un peu comme au Japon, on peut privatiser une petite partie en mettant trois pots, en mettant un vélo? Il y a tous ces débats-là qui vont arriver. Et ça va être néanmoins des espaces qui seront semi-publics, semi-privés, ces espaces de frottement. En dessous, sous la barre, donc, on a un certain nombre d'espaces qui vont être des espaces communs, qui ne sont pas encore attribués, c'est-à-dire on ne sait pas encore ce que ça va être, mais il y a déjà eu deux réunions avec les habitants sur lesquelles des idées commencent à germer, où on a un menuisier qui dit, moi si j'avais un atelier, ce qui serait super, c'est que je pourrais apprendre la menuiserie à d'autres habitants, je pourrais monter des cuisines, et puis... moi, j'ai toujours rêvé de faire la musique. Donc, s'il y a un habitant qui sait faire la batterie, il pourrait m'apprendre à faire la batterie. On a comme ça ce type de lien qui commence à se mettre en place. Et ce qui est intéressant, c'est que, pour ça que je dis que ce n'est pas un projet d'architecte, c'est que les acteurs dans cette histoire-là, c'est une vraie tour de Babel. C'est-à-dire que chacun arrive avec son langage. Donc, il y a la maîtrise d'ouvrage qui a son langage, qui a ses manières de faire. Il y a l'architecte et l'habitant qui a ses habitudes d'habiter. Et nous, comme on connaît bien ce genre de limites aussi, on a intégré dans l'équipe un médiateur. Le médiateur, il est là justement pour traduire les langages, pour faire que l'habitant ne parle pas comme un architecte, mais qu'il parle à un architecte et que l'architecte arrive éventuellement à le comprendre et inversement. C'est un vrai traducteur, c'est une espèce de couteau suisse qui permet comme ça de traduire les envies. Et c'est la première fois nous qu'on travaille avec justement un intervenant, on appelait le saltimbanque, qui permet justement d'avoir cette rotule et d'avoir cette communication possible au fil des réunions. Alors il y a quand même un préalable dans ce projet qui était la création d'une ferme urbaine sur cette dalle, sauf qu'à la différence d'Orea, où on était sur plutôt du jardinage, on va dire, relativement calme. Là, il y a vraiment l'idée d'avoir une ferme urbaine où on produit, où il y a vraiment une vraie production, où les habitants peuvent s'investir vraiment dans la production agricole, on va dire. C'est quelque chose qui est déjà en cours dans la résidence Maurice Thorez à Bègles, qui fonctionne avec une association aussi. Et donc là, on veut essayer de mettre en place ça avec, là aussi, des espaces complémentaires de cuisine, etc., qui soient au service, justement, de cette vocation.
Voilà. Voilà les données du problème tel que ça commence à s'enclencher. On a passé l'été, dans les premiers échanges avec les futurs habitants. Et vous voyez que ce qui revient dans l'intention, en fait, parce qu'on a beaucoup, avec le saltimbanque qui anime l'intermittent du spectacle, là, qui nous fait l'animation, les traductions, les mises à niveau des langages, et qui fait ça merveilleusement bien. C'est un vrai métier de faire ça, et on l'a vu la dernière fois. C'est vraiment essentiel dans ce genre d'approche. Ce qu'on se dit, dans le fond, et à la fin, on a réussi à se caler là-dessus, qu'est-ce qu'on fabrique là ? On fabrique une coopérative de production. Quand il s'était agi d'avoir la première rencontre avec les habitants, on se disait, mais comment on avance vers eux pour leur expliquer le projet ? Ils portent des valeurs, il faut leur expliquer les valeurs, etc. Et on a dit, non, la seule valeur qui vaille, c'est le labeur. Et donc, on va dire, il y a des producteurs, monteurs d'opérations, architectes, gestionnaires, et il nous en manque un qui attend la béquille à la fin seulement, et maintenant, on va lui dire, toi aussi, tu vas produire avec nous, et donc, c'est l'habitant. Et donc, c'est une coopérative de producteurs, chacun sa part, chacun son métier, sa compétence, mais tout le monde produit. Et puis, on a vu qu'on a poussé le bouchon jusqu'au bout, ça va devenir une vraie coopérative de production agricole. Et donc, ils vont continuer à se mettre au boulot, ils vont continuer à œuvrer. Et moi, il me semble que c'est un point clé de ce genre de démarche dans la situation actuelle de la modernité ou la postmodernité de notre condition urbaine, c'est que si je ne me mets pas au boulot, très concrètement, dans quelque chose que je vais apprendre à découvrir et à aimer, et on peut évoquer aussi l'ébénisterie comme on veut. Nous, là, on a choisi d'en faire des producteurs agricoles parce qu'il faut aussi qu'ils puissent consommer leur production. On est face à des ménages très modestes qui achètent, vous savez, les vraies fausses tomates bio qui viennent d'Espagne transitant par la Hollande et retournant par la Hongrie avant d'arriver on ne sait plus où, et qui valent très cher. On va dire, là, ils vont le faire eux-mêmes et puis ils vont se goûter leurs tomates tranquilles. On espère juste qu'ils nous inviteront à pique-niquer quand ils auront une production sympa. Mais c'est vraiment l'idée de, il faut produire, il faut œuvrer en commun, il faut reprendre la main sur l'ouvrage. Et ça, c'est vraiment, enfin, moi, j'ai vraiment cette conviction-là qu'avec nos habitants, les gens qui sont chez nous, il faut leur permettre de renouer une relation entre eux et avec nous au travers d'une production la plus manuelle possible, la moins conceptuelle, la moins intellectuelle. Manuel en sens qu'elle est utile à la vie de tous les jours. Et ce qu'on va essayer d'attraper là, c'est ensemble faire un dispositif utile à la vie de tous les jours de ceux qui occupent ce lieu. Alors on avait juste une dernière question, parce que si on revient à la photo initiale, on se dit, mince, vous avez vu la situation habitante d'aujourd'hui. Si notre coup réussit, la première, là, elle est terrible. Si notre coup réussit, il vous est apparu immédiatement que la ferme urbaine, nous avons à peu près, Aurélie, 350 perdus qui vont lorgner le cucurbitacé qui va commencer à pousser. En se disant, mince, et nous alors ? On est aussi locataire d'Aquitanis, pourquoi on n'a pas ça ? On s'est dit, il y avait un risque, alors c'est pour ça qu'on l'a mis à l'étage, pour pas qu'il soit pillé tout de suite, le truc, mais il y a quand même un risque d'envie. Alors c'est le pire des risques qu'on puisse imaginer, et on se dit, ça va donner envie aux autres. Alors, nous, on commence à se préparer, à se dire, il faudra une deuxième ferme urbaine au Grand Parc pour les autres. Mais dans un premier temps, on s'est dit, le temps que l'autre arrive, notre projet doit aussi immédiatement fonctionner sur la logique du don et du contre-don, réellement. C'est-à-dire que si je fais quelque chose qui a une valeur totalement inattendue, il nous semble que dans la coopérative de production, là, dans les deux dimensions que j'évoquais, c'est vraiment nouveau dans le paysage du Grand Parc. Il faut que... Ça, c'est un vrai don aux nouveaux occupants qu'on fait là, c'est clair. Eux, ils vont nous faire don de leur capacité de travail, mais au final, ils vont tirer profit, eux, au vrai sens du terme, de ce nouveau lieu. Quel profit pour les autres ? Alors, on a commencé, et c'est venu dès la première rencontre, il y en a un, nos locataires, qui a dit, hop, 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 et les autres, qu'est-ce qu'on leur donne? Alors, au début, non, il a dit, qu'est-ce que vous leur donnez? Alors, on a dit, non, qu'est-ce qu'on va ensemble leur donner? Et on a dit, donc, dans notre dispositif, il devait y avoir un mécanisme de don des futurs habitants aux autres qui sont déjà là autour. Et on s'est dit, ça a été tout de suite dit, c'est un parking, il y a de la réparation sauvage, vous savez, on fait. Dans nos ensembles, vous allez vous balader, vous voyez toujours qu'il y a une bagnole qui est remontée un peu et qu'il y a trois mecs dessus, autour, à bricoler, réparer, etc. Donc ça, c'est une vraie utilité que de mettre un petit garage, une fosse, un abri, pour qu'ils puissent réparer leur voiture. Et on dit, c'est dans le dispositif de la résidence, c'est dans le coût de l'opération. Alors ça vaut un peu plus que la treille, hein, mais on se dit, c'est dans le coût de l'opération, pour bien montrer que c'est l'opération qui fait le don aux autres d'un endroit à réparer la voiture. Et l'endroit à réparer la voiture, c'est pour tous les habitants du Grand Parc. C'est pas que pour nos résidents. Et donc, premier dispositif, et donc ça, on va le faire immédiatement. Et puis après, on va voir avec notre groupe de futurs nouveaux locataires, là, qu'est-ce qu'ils veulent donner aux autres pour que les autres n'aient pas l'impression qu'ils se sont, eux, tout donné pour eux-mêmes. C'est-à-dire 40 face à 250, ils ne vont pas tenir longtemps s'il y avait affrontement. Hein, et donc, il faut pacifier tout de suite la relation. Et pour ça, il faut donner comme on a reçu. Et donc, ils vont donner 2-3 petits satellites autour. Et on va bien expliquer que ces satellites, c'est bien l'opération. C'est locus solus élargi. C'est locus solus ouvert, comme on a vu le premier jardin d'Auréa ouvert à l'ensemble de la population. Je fais don aux autres d'une parcelle qui, normalement, me revenait à moi. Et on est toujours sur le principe de l'utilité, c'est-à-dire que ce que je donne est utile pour la vie de tous les jours. Voilà un peu comment on est parti dans cette aventure. Hein. Alors, on n'a pas fait venir les autres protagonistes, mais il y a un binôme, là, qui va vivre des heures exaltantes. C'est le monteur d'opération et le responsable de secteur, ces deux jeunes femmes, qui sont les parties prenantes complètes du projet. Et là aussi, on trouble un peu le jeu, on fait bouger un peu les lignes dans notre organisation en interne. C'est-à-dire que jusqu'à présent, par exemple, Auréa, normalement, du côté d'Aquitaine, c'est un monteur d'opération qui suit l'opération avec les archis, normalement. Et là, c'est un binôme, c'est-à-dire qu'il y a le monteur d'opération, mais il y a aussi le gestionnaire final qui, lui, a la relation avec les habitants, la parfaite compréhension des usages, parce que le gestionnaire ou responsable de secteur, il est immergé dans le Grand Parc. Il vit au quotidien avec les habitants. Et donc, on fait rentrer maintenant, le plus en amont possible, la compréhension des usages par Aquitanis dans le groupe qui va travailler. Donc, c'est le dernier élément du dispositif qui va faire bouger aussi les lignes en interne. Voilà donc nos deux projets. Ils avaient dit que sur le deuxième, ils ne voulaient pas parler, mais je pense qu'ils ont superbement bien présenté les premières choses. Vous avez vu, on tient des éléments, une structure, une forme. On assure un peu nos arrières, et puis avec ça, on y va. On avance, on a un an et demi devant nous, tranquille. Sauf qu'on veut déposer le permis le plus vite possible, tranquille aussi, de façon à marquer un peu notre... Alors juste pour conclure, qu'est-ce qu'on en tire comme mot d'Aquitanis par rapport à ça sur le territoire de la métropole? Vous savez, dans Agora, il y a un espace ou plusieurs espaces sur Brasa où on parle de structures capables. C'est très intéressant puisque c'est un peu le principe, hein, de faire participer le futur occupant à finaliser son lieu de travail ou son lieu habité, voire les deux ensemble. Et donc, la structure, elle est capable d'accueillir à la fois une activité et puis une vie domestique. Et elle est à finir. Ça, c'est un premier élément extrêmement intéressant dans la nouvelle façon de concevoir l'habitat ici sur la métropole. Nous, ce qu'on met en jeu en poussant un petit peu différemment le pion, c'est-à-dire ce qui est capable, c'est l'homme. La structure, on peut la rendre capable, malléable, c'est extrêmement intéressant. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de partir vraiment de l'homme et de se dire, il faut qu'on lui permette d'être capable de réaliser son rêve. Et réaliser un rêve, ça veut dire avant tout se mettre au boulot, travailler, œuvrer. Et on est vraiment sur une dimension de Vous savez, ce Claude Lévi-Strauss qui faisait la différence entre la pensée de l'ingénieur et puis la pensée ou la façon d'y aller du bricoleur. Eh ben, une structure capable, c'est encore une structure qui me semble être dans la rationalité du monde de l'ingénieur. Nous, on veut compléter ça, ajouter une pierre à l'édifice de cette approche extrêmement intéressante, en disant ben, on va prendre le futur habitant dans sa dimension de bricoleur, et donc on va bricoler ensemble l'habitat, c'est-à-dire simplement se mettre au travail ensemble, très concrètement, et de façon la plus manuelle possible. Voilà ce qu'on voulait échanger avec vous. On a rempli, on a fait sable con. Il y a même des gens debout au fond, c'est incroyable. À cette heure-là, c'était super. Merci de votre attention. Si vous avez une ou deux questions, il nous reste 6 minutes, 7 minutes pour un échange, si vous voulez nous interpeller, qu'on soit ici ou qu'on soit... Parce qu'il y a les équipes d'Aquitanis, là. Ou que ce soit pour les autres acteurs d'Aquitanis. Et il faut, aujourd'hui, on ne confond pas les espaces, le temps d'installer les choses. C'est-à-dire le rez-de-chaussée est bien ouvert à l'ensemble de la commune et le premier étage est bien réservé à nos résidents. Il faut d'abord qu'ils établissent la rencontre entre eux. Et si après, ils décident qu'ils ouvrent l'étage à d'autres, parce qu'ils vont faire des rencontres aussi avec d'autres habitants de la commune qui ne sont pas des résidents, il va se nouer des relations amicales. Après, ils emmènent leurs amis dans leur jardin à l'étage. Hein. Mais dans un premier temps, on a quand même bien dissocié les deux niveaux pour pas qu'il y ait confusion, parce qu'après, vous savez, on n'aime pas beaucoup non plus que l'intimité de son logement soit envahie par des gens de l'extérieur comme ça. Or, dès l'étage, on passe directement sur les coursives, on rentre directement dans les logements. Hein. Donc, il faut qu'on protège aussi l'intimité des habitants.
C'est aussi, alors, dans la pratique de la résidence, il y a une salle commune qui, à la demande d'Aquitanis, s'est passée de LCR à ERP. Donc ça veut dire que déjà, il y a des gens par l'intermédiaire d'associations qui vont donc pouvoir rentrer. Donc peut-être que les choses comme ça se sauront. Et ensuite, ce jardin, il est collé à des venelles qui sont des sortes de raccourcis qu'on a au Bousca. Et ce qui fait qu'en fait, je pense qu'assez naturellement, les gens... Voilà, par l'intermédiaire de ces raccourcis, vont pouvoir peut-être utiliser un nouveau raccourci. On peut imaginer que les choses commenceront comme ça.
Et puis après, on va faire de la pub. Non, il ne marche pas celui-là. On a deux courants.
Conférence 1, Mesolia Habitat présentera Arbios, un parc habité, un projet humain.
Super, nous on y va.
Conférence 2, EFAGE présentera Laboratoire prospectif phosphore.
Là, on ne va pas parce qu'on n'a pas compris l'intitulé, on est d'accord? Donc, on va à l'autre. Hein. Non, il y a aussi deux vecteurs pour informer la population de la commune. C'est le bulletin municipal et, vous l'avez vu, le bulletin paroissial. Donc, on va passer de l'information par ces vecteurs-là aussi et ça va dire aux gens que c'est ouvert, là. Un indépendant du spectacle, un intermittent. Hein. Non, mais c'est un professionnel en libéral et dont le statut est de faire ce job. C'est lui qui a mené toute la médiation pour la cube sur le pont Jean-Jacques Bosque. C'est lui qui a mené toute cette médiation avec la population de préparation du projet du pont. Donc c'est son métier, il fait que ça. Hein. C'est étrange, mais il y a des gens qui font que ça. Ouais. Ouais, non, c'est un vrai pro... d'un métier très particulier.
Et justement, sur ce travail de médiation, normalement, lui fait la médiation en temps de crise. C'est-à-dire, vous avez un incinérateur d'ordures qui s'installe à côté de chez vous. Bon, en général, les riverains se mobilisent, etc. Et lui, son boulot, c'est justement d'arriver à régler ce genre de problème. Là, ce qui est assez étonnant pour lui, c'est la première fois que ça lui arrive, c'est que c'est une médiation positive. C'est-à-dire que là, personne n'est dans la détresse, il n'y a pas de problème. Au contraire, c'est que du plus, quoi. Donc, ça lui demande une certaine adaptation.
Ça va, on va laisser place à Phosphore, je crois, ici. Et je vous invite à rejoindre la petite conférence avec Mésolia, parce que c'est pas mal aussi, Mésolia. Hein ? Allez, à tout de suite chez Mésolia.